Salut à tous et bienvenue encore une fois pour notre podcast hebdomadaire Super Physique. Je suis avec le vieux, le sage, Julien Vénesson, auteur du livre La Nutrition de la Force. Salut Julien.
Salut Rudy, bonjour à tous.
Et je suis avec Quentin, aux multiples pseudos sur Super Physique, sur Facebook et sur les forums, qui s'est proposé de participer.
Salut à tous.
Donc c'est Quentin qui va animer le podcast aujourd'hui. Donc je vous rappelle encore une fois que vous pouvez proposer votre participation au podcast, et qu'après bah, je vous donne une date, et puis après c'est à vous de venir participer, et puis si vous avez des questions, bah, on y répondra avec plaisir, surtout moi, parce que Julien, pas trop. Bon bah Quentin, à toi de jouer.
D'accord, bah, on va commencer par des questions d'actualité, donc bah, de Super Physique hein, déjà.
Voilà, donc comme je vous avais dit, on a reçu ça y est les vêtements Super Physique, donc les t-shirts pour femmes sont en ligne. Les t-shirts pour hommes sont en ligne, ainsi que les débardeurs. Donc tout est en vente sur le site, sur la boutique du site. Donc encore une fois, bah, dépêchez-vous parce que je fais toujours un stock limité exprès pour pas garder pour tout le monde, pour faire des éditions limitées, un peu collector. Donc voilà. Donc autre point sur les goodies. Là, on va lancer. J'ai lancé les devis. J'ai reçu hier. Donc j'attends la confirmation visuelle pour faire des serviettes d'entraînement, donc des petites serviettes. Et des petits sacs à dos pour tester, voir si ça vous dit ou pas. Car moi, ça me dit, donc au moins, j'en aurai un. Puis ça vous dit, bah, vous pourrez en acheter aussi. Et je voulais faire un petit point aussi sur le Club Super Physique. Donc, ça continue de... J'ai d'avoir plein de vidéos. Donc, tous les jours, je continue à les valider. Là, non, j'espère voir les filles sur le club, maintenant qu'il y aura les t-shirts. Mais donc, je voulais faire un petit point là-dessus. Parce que quand j'ai lancé le club, il y en a qui me disaient « Oui, mais ça a l'air facile, nanana. » Et puis, bah, finalement, je regarde et il y en a beaucoup... C'est pas facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est niveau légende. Et là, je dis ça parce que tout à l'heure, j'ai vu Mickey qui est dans la team qui vient de faire 10 à 50 au curl avec la barre. Donc, c'est le deuxième niveau légende au curl. Alors que il y a plein de mecs qui me disaient Ah ouais, mais 10 à 50 au curl, c'est facile. Hein. Ah, sauf qu'ils sont pas là, les mecs. Donc, comme d'habitude, il y avait beaucoup de blabla. Et puis là, on voit vraiment qui est là et qui baratine comme d'habitude. Donc voilà, donc il y a toujours une bonne ambiance. On peut voir des commentaires tous les jours. J'ai envoyé une petite quinzaine. Donc voilà, le club continue de s'agrandir.
Il y a des bonnes perfs aussi, hein. Ne serait-ce qu'au coucher, il y en a beaucoup à 110, 120 kilos. Hein. C'est...
Ouais, bah, il y en a eu un qui a fait 10 à 120, donc un de mes élèves qui a fait 10 à 120 au coucher. Donc, et là, il y en a un deuxième normalement qui doit faire 10 à 120, là, qui m'avait demandé des t-shirts qu'on en recevait, et j'ai vu qu'il a commandé aujourd'hui. Donc, non, mais de toute façon, le niveau a monté. C'est, comme j'avais dit, en fait, c'est une émulation collective, et normalement, tout le monde va monter grâce au conseil de Super Physique. Et va se retrouver sur le club Super Physique.
Ouais.
Donc là, j'attends encore un petit peu avant de lancer les premiers concours, que tout le monde ait ses t-shirts ou des bardeurs. Puis après, je lancerai quelques petits, un petit concours pour l'été, je pense. Et puis voilà pour l'actu de la semaine.
D'accord. Donc on va commencer les questions qui ont été posées. Donc une question pour Julien. Est-il vrai qu'on peut trop gâter le corps en acides aminés, notamment autour du training, si bien que celui-ci deviendrait réfractaire à l'anabolisme?
C'est vrai que plus on prend de protéines, même après l'entraînement, moins il va y avoir de bénéfices, hein. Il y a un espèce d'effet de saturation. Donc, on se met après à utiliser l'excédent de protéines, on se met à l'oxyder, donc il va plus être utilisé pour fabriquer de la masse musculaire. Alors, c'est pas vraiment une résistance à l'anabolisme au sens moléculaire, on va dire. Mais bon, c'est un peu tout comme. La résistance à l'anabolisme, elle va plutôt survenir avec l'âge, par conséquence du vieillissement. Simplement, les mécanismes de tout le corps humain se mettent à fonctionner moins bien, y compris l'anabolisme musculaire. Donc, et là, à l'inverse, il y a des études qui montrent que d'enrichir la ration protéique, notamment leucine, permet de compenser un peu cette baisse de l'anabolisme. Donc avec l'âge, ce serait plutôt l'inverse. Il faudrait plutôt tendance à augmenter un peu la consommation de protéines ou de leucine seule.
Et, voilà. Et quand, sur la question, je comprends en fait trop gâté. Donc, est-ce qu'il y a une quantité maximale à prendre d'acides aminés autour du training ou pour pas que ce soit gâché? Est-ce qu'on peut donner une fourchette ou pas?
Bah, c'est un peu difficile parce que ça va dépendre du poids corporel de la personne déjà. Il n'y a jamais eu d'études qui ont été faites pour déterminer exactement de manière universelle qu'est-ce qui serait l'idéal. Ça va dépendre aussi de ce qu'on a pris avant l'entraînement et de ce qu'on a pris pendant l'entraînement. c'est bien évident, quelqu'un qui a eu une bonne nutrition avant et pendant l'entraînement a moins besoin de prendre beaucoup de protéines après l'entraînement. Et en plus, il vaut mieux répartir les prises de protéines à ce moment-là parce qu'elles seront mieux utilisées que si on en amène une trop grosse quantité d'un seul coup après l'entraînement. Donc, bon, en moyenne, on considère qu'après l'entraînement, 40 grammes de protéines, c'est bien. Je pense qu'il n'y a pas, à moins d'être vraiment un très gros gabarit et éventuellement de prendre des produits interdits en plus, il n'y a pas de raison d'aller au-delà.
Bon, bah ça répond bien à la question. Quentin, qu'est-ce que t'en penses ?
Bah, ouais, c'est pas mal.
C'est pas mal. Oh là là, un affront. Ouais.
Quentin, si tu as d'autres remarques ou si tu veux des précisions, n'hésite pas.
Non, mais éventuellement peut-être des facteurs. Hein. Si on prend trop de protéines, par exemple, on va acidifier vachement le corps, par exemple, peut-être.
Bah alors ça, c'est ça.
De couleur, etc. Enfin, c'est ce genre de choses.
Ça, c'est une considération qui est plus globale et qui est pas uniquement centrée au niveau de l'entraînement lui-même.
Ouais.
Et en plus, ça dépend de l'ensemble de ton alimentation. Tu peux avoir une alimentation très riche en protéines sans avoir de perturbation de l'équilibre acido-basique si, en particulier à côté, tu as une grosse consommation de fruits et légumes, voire d'un complément alimentaire basifiant. À ce moment-là, ça posera pas ce problème-là. Donc ça va être très, très individuel, ce caractère acidifiant. Ça va aussi dépendre de savoir si on est dans une prise de masse ou prise de muscle ou si on est dans un régime ou une sèche. Parce que selon le statut énergétique, on catabolise plus ou moins. Et c'est le catabolisme qui fait produire le plus de déchets acides.
Ouais.
Donc, si on mange un peu trop de protéines pendant une prise de masse musculaire, on produit quand même moins d'acidité que si on fait la même chose pendant un régime. Donc, tu vois, de dire que simplement les protéines provoquent de l'acidité, c'est pas si simple. Il y a des facteurs qui interviennent. Ouais. Et puis, autour de l'entraînement, c'est un moment très, très particulier. Donc, on peut pas raisonner globalement en même temps.
D'accord, bon, ça répond bien à la question. Hein. Bon, on continue la suite des questions. Donc une pour Rudy. Alors, donc c'est quelqu'un qui pose son problème. Alors j'ai un problème concernant mon développé couché. Que faire lorsque l'on valide sa première série mais que les autres perdent tout le temps en répétition? Pour moi, si je suis à fond sur la première série, donc principalement en fin de cycle, d'autres chutent obligatoirement du coup. Comment valider 4 séries de 12 répétitions par exemple?
C'est une bonne question, c'est un petit jeune à chaque fois qui pose, je sais plus son prénom, mais qui pose toujours des questions assez intéressantes. Donc j'ai vu qu'on avait répondu déjà un peu sur le forum, donc et je vais confirmer un peu ce qu'on dit des autres, c'est que déjà c'est une erreur d'être à fond sur la première série. Donc normalement si t'es un cycle, imaginons, donc je vais prendre des exemples concrets, je fais 4 fois 12, première série j'en fais 12, donc c'est la première séance que je loupe, après je fais 10, 8, 8 par exemple. Semaine suivante, j'ai plusieurs possibilités, mais bon, celle que je préconise le plus, c'est par exemple de passer sur un cycle avec moins de répétitions. Donc par exemple, de passer en 4 x 10. Tout en gardant le temps de récup. Mmh. Donc ce serait le premier truc, donc, histoire de redonner un peu de marge. Donc imaginons, en chiffrant, j'ai fait 4 x 12 à 97, je dois faire 4 x 12 à 100, bah ça passe pas, je fais 12, 10, 8, 8. Bah 4 x 10 à 100, ça va passer, et ça va me redonner un peu de marge pour continuer mon cycle. Donc voilà, première possibilité. Deuxième possibilité, je peux augmenter mon temps de récupération entre chaque série, si je veux rester sur 4 x 12. Donc, imaginons que je prenais 2 minutes, bah, je peux passer à 3 minutes entre chaque série. Mais bon, à mon avis, c'est moins sûr que ça passe. Hein. Quand on se donne à fond sur une série, en général, c'est déjà la fin. Ou sinon, on peut même directement, au lieu de passer 4 x 10, passer en 4 x 8, hein, histoire de redonner vraiment une marge. Mais c'est sûr que là, le petit jeune qui pose la question, en fait, a été beaucoup trop loin... dans son cycle, en fait, son cycle en série 12 est fini depuis longtemps. Parce qu'il est déjà à fond, donc, et comme j'aime à le répéter, c'est pas en allant à l'échec qu'on entretient la réussite. L'échec entraîne l'échec, la réussite entraîne la réussite. Donc voilà, donc plusieurs facteurs, je récapitule. 1. Diminuer son nombre de répétitions sur le cycle. 2. Augmenter son temps de récupération entre les séries. Donc moins valable si on est déjà vraiment, vraiment à fond. 3. Vraiment le diminuer de beaucoup pour redonner vraiment une grosse marge. Comme je disais dans le podcast précédent, avec l'histoire des microcycles de récupération, c'est aussi important qu'on ait à fond, après, de pouvoir reprendre une petite marge pour pouvoir continuer à progresser. Donc c'est un peu comme ça que je vais gérer les choses.
Il paraît, Rudy, que tu vas offrir ton nouvel e-book à ce jeune homme qui pose des questions très intelligentes à chaque fois.
Non.
Est-ce que
non.
c'est...
Non, j'ouvre pas mon e-book.
Ah bon, zut.
Mais je l'offrirai peut-être dans les concours superphysiques. Mais d'ailleurs, oui, je sors, j'avais oublié de faire le point là-dessus. Je sors mon nouvel e-book dont j'ai fait la promotion la semaine dernière, donc mes secrets pour sécher. Donc je récapitule ce qu'on trouve dedans. Donc combien de temps il faut pour sécher. Donc des exemples avec des photos à partir de mes élèves. Donc bien important de déterminer le temps pour sécher. Pourquoi sécher. Donc comment se fixer un objectif. Faut-il prendre une photo de quelqu'un d'autre ou se prendre soi-même en photo et viser quelque chose par rapport à soi. Comment sécher. Donc la mise en place du régime. Donc comment manger. Comment réduire son alimentation. Comment faire pour suivre son évolution. Pareil après, donc exemple de régime sans supplément. Ensuite, on verra les suppléments qu'il faut prendre. Donc, vous allez voir, bon, ça, c'est des trucs que ça, j'ai déjà dit sur les suppléments, mais vraiment la base, quoi. On va éviter toutes les merdes qui existent et qu'on essaye de nous vendre avec des noms farfelus. Donc, comment les prendre aussi. Donc, l'entraînement, ensuite, comment s'entraîner en période de sèche. Faut-il faire du cardio. Faut-il faire des abdominaux tous les jours. Peut-on sécher localement. Mes astuces personnelles pour sécher, donc comment je fais personnellement pour sécher quand j'en ai envie, donc pour tenir à coup sûr. Et après, bah, les questions qu'on se pose tous, c'est comment remanger après une sèche pour pas refaire de gras, est-ce qu'il faut sécher chaque année, etc. Donc l'e-book est assez complet, je suis assez content de l'e-book. Donc en plus, il est designé cette fois-ci, et en plus, donc j'ai oublié d'en parler parce qu'on vient de le finir avec mon webmaster juste avant le podcast. Donc voilà, donc normalement, il sera en vente à partir de lundi. Sur mon site, donc en plus du tome 1 Mes secrets pour prendre du muscle, qui en a 44 témoignages en moins de 4 mois, et donc avec toujours que des gens satisfaits. Donc voilà, donc ce sera en vente sur rudycoya.com et puis aussi sur Superphysique, qui sera en vente sur les deux. Et puis je ferai aussi un petit pack pour les deux, e-book, pour que ça revienne moins cher. Donc voilà, pour la petite aparté. Donc Julien, tu pourras m'acheter mes deux e-books. T'en as de la chance pour Akuma.
Ah oui.
Parce que j'ai vu qu'Akuma manquait un peu de muscle et était un peu gras.
Ah, tu trouves?
Donc s'il veut un peu de muscle et perdre un peu de gras, il peut faire les deux e-books.
D'accord. Je lui ferai la lecture le soir.
Je lui ferai un prix spécial chat.
Ça peut être pas mal, ça, un livre spécial chat.
C'est de l'argent. D'ailleurs, j'ai annoncé sur ma page Facebook, pour ceux que ça intéresse, ils ne doivent pas être très nombreux.
Ah oui,
c'est vrai. J'allais faire... dans le courant de l'année, je ne sais quand, je pense que je ferai une vidéo explicative sur la nutrition féline.
Là, j'ai vu que tu mettais dans les croquettes.
On attend ça avec impatience.
Alors. Alphaïo, Alphaïo, ce Quentin.
Mais j'aime bien les chats, donc du coup, ça m'intéresse.
Est-ce que tu as un chat, Quentin?
Non, pas chez moi.
Ah, tu vois, en plus, il aime les chats, mais il a pas de chat, Julien.
T'as des chevaux et je suis devenu allergique, alors.
Ah, bah, t'aimes. Oh là là, le mec.
Ah, quand j'étais gamin, je vivais dans les chats, mais bon, après, à partir de 20 ans, moi, je suis devenu allergique. Pas de chance. Donc, bon.
Ouais, c'est le manque de vitamine D, hein.
Pourtant, c'est quand j'ai commencé à en prendre, donc, il y a peut-être une relation, justement.
C'est trop tard. Tu l'as pris trop tardivement.
Merde. Bon, c'est pas grave, tant pis. Sans ça, c'était cool. Bon, on va reprendre le fil du podcast. Alors, une question pour Julien. Pourquoi dit-on souvent les culturistes meurent plus tôt que les sportifs d'endurance?
Alors, Julien, est-ce que je vais mourir beaucoup plus tôt que les autres?
Si on le dit, c'est probablement parce que c'est le cas. Je pense aussi que c'est le cas. Jusqu'à maintenant, beaucoup de professionnels du culturisme meurent plus jeunes que des professionnels de l'endurance. À mon avis, c'est lié à vraiment à beaucoup de facteurs qui sont très distincts de ceux qui concernent nos auditeurs. Premièrement, les produits utilisés à haut niveau, qui sont souvent des produits dopants dans le culturisme, ce sont des produits qui sont quand même très toxiques, voire souvent beaucoup plus dangereux que ceux utilisés pour l'endurance, quoique c'est vrai que si on compare avec le cyclisme, où là on est dans l'apogée de la chose, c'est peut-être pas exactement ça. Enfin, dans l'ensemble, c'est quand même des produits qui sont assez dangereux, notamment pour les reins. Il y a d'ailleurs beaucoup de bodybuilders pro hein, qui se sont retrouvés avec en insuffisance rénale ou des greffes de reins. Hein,
on se souvient, petit aparté, que Don Long, il y a un bodybuilder pro, le mec il avait son appareil de dialyse chez lui. Je sais pas si tu te souviens, tu l'as peut-être pas vu ce DVD-là, Julien, mais c'était un DVD qui est sorti à... peut-être 5-6 ans, et le mec, toute la nuit, il avait son appareil de dialyse et il se branchait toutes les nuits quand il dormait.
Ouais.
Donc c'était... Non, mais
il y a même encore maintenant, hein, ça arrive à plein de pas mal de bodybuilders. On en voit régulièrement là, Michael Gundil qui poste de l'actu, voilà. Donc c'est sûr que l'utilisation de produits dangereux, ça contribue pas à la longévité. Ensuite, je pense que quelque chose qui contribue pas mal au danger de ce sport, c'est que pendant des années, la nutrition dans ce sport a été en même temps un mélange de quelque chose de perfectionné, c'est-à-dire que pour pouvoir réussir une sèche vraiment poussée, pour pouvoir aller sur scène, il faut des notions de nutrition qui sont assez avancées. Mais par contre, en même temps, il y avait des aberrations vraiment importantes. Pour prendre un exemple, c'est celui qui consistait et qui consiste encore pour certaines personnes à conseiller des régimes alimentaires très pauvres en lipides, en pensant que ce sera mieux efficace pour la sèche, alors que d'une part, c'est pas plus efficace quand on veut sécher, et en plus, c'est dangereux pour le système cardiovasculaire. Et il y a pas mal de sportifs qui faisaient de la musculation, qui suivaient au long cours des régimes alimentaires très pauvres en graisse. Je pense que c'était un peu le cas de Jean Texier, sans en avoir une certitude absolue. Donc voilà, peut-être que d'autres personnes que moi connaissent mieux le régime de certaines de ces célébrités.
Ben c'est que les mecs, c'est qu'à l'époque, moi j'ai les bouquins, donc je peux te dire, mais les mecs, c'est vrai qu'ils mangeaient rien, quoi. Alors, pour sécher, je me souviens des régimes Texier, c'est vrai, il y a pas beaucoup de lipides, quoi. Quand il décrivait ses régimes dans, je sais plus, c'était visa pour le muscle, où le mec, tu voyais, il mangeait, j'ai pas, 800 grammes de viande par jour sur 4 repas, et puis un verre d'eau à chaque fois. Je sais pas, ça ressemblait à ça, les diètes, quoi.
Ouais, ben ça, je les avais vus aussi, c'est un peu pour ça que je dis ça, en ce qui le concerne, parce que Jean, il a toujours été, de son vivant, assez sec, quand même. Il est resté, même, avec l'âge, assez sec.
Il a toujours été super, hein, c'était un des meilleurs.
Voilà, donc si s'il était assez sec, c'est qu'il probablement qu'il continuait à suivre ses propres conseils, et je pense que ça a pas dû être très bon pour sa santé, quoi. Et maintenant, on a quand même des notions sur les oméga 3, les oméga 6, l'huile d'olive, etc., qui sont beaucoup plus connues du grand public. Donc de fait, même en muscu, tu vois bien, que ça soit dans mon livre ou dans tes articles, sur le site, sur les forums, on explique beaucoup plus souvent aux gens que, au contraire, si on veut bien sécher, il faut qu'il y ait des oméga 3, et qu'en plus c'est bon pour le système cardiovasculaire. Donc on a arrêté les...
De toute façon, faut bien dire, on progresse mieux de toute façon qu'on est en bonne santé, qu'on recherche à être en bonne santé, plutôt que si on fait n'importe quoi.
Ouais. Et alors donc tout ça, je pense que ça explique le fait que les bodybuilders ont une espérance de vie à l'origine plus faible. Mais si on est un sportif entre guillemets naturel, en tout cas qui n'utilise pas de substances dangereuses, je pense au contraire que quelqu'un qui pratique la musculation a une espérance de vie de fait plus importante que celui qui pratique des sports d'endurance à outrance, pour tout un tas de raisons. D'une part, la masse musculaire est fortement reliée au fonctionnement du système immunitaire. Donc, meilleur système immunitaire quand on vieillit, c'est très important, parce que c'est une des causes de mortalité, hein, suite à une infection. On résiste mieux aux maladies. Et puis on a aussi beaucoup moins de risques d'avoir des fractures, parce qu'on a un meilleur équilibre.
La différence, c'est les entraînements, surtout quand tu fais un sport d'endurance, en général, c'est long, répétitif, et forcément, ça renforce pas, ça fatigue.
Ça fatigue, ouais, surtout.
Ça fatigue tout, quoi. Alors que la muscu, bon, ça nous fatigue, mais c'est pas une vraie fatigue, à côté de le mec qui court 10 bornes tous les jours.
Ça dépend de comment on s'entraîne, il y en a qui s'entraînent trop aussi, mais bon, globalement, c'est vrai que c'est pas le même volume non plus d'entraînement, et ça contribue effectivement aussi au méfait de l'endurance à outrance. Donc voilà, donc disons que je pense qu'il faut distinguer la pratique sportive professionnelle de la pratique sportive amateur, déjà en termes de santé, et ensuite, pour moi, si on a une pratique raisonnée et raisonnable, au contraire, on met beaucoup d'atouts de son côté.
Mais il y avait une question qui revenait souvent, je me souviens aussi à l'époque des articles de Texier. La question, c'était par rapport au cœur, en fait.
Ouais.
Donc, si on faisait pas de sport d'endurance, donc si on faisait pas d'activité aérobie, en fait, on développait pas son cœur comme il fallait. Et donc c'est pour ça que on vivait moins longtemps aussi.
Bah ça c'est de la pure
connerie.
C'est de la pure imagination.
C'est bien de le dire parce que pendant longtemps c'était un argument qu'on retrouvait dans les magazines.
Non, mais ce qu'il y a surtout, c'est que c'est un argument aussi que certaines personnes pensent juste, parce que quand elles se mettent, si elles font beaucoup de musculation ou que de la musculation et que d'un seul coup elles se mettent à courir, elles se rendent compte qu'elles sont pas très fortes pour courir. Et j'ai envie de dire, bah c'est tout à fait normal. Si on s'entraîne pas spécifiquement pour quelque chose, on n'est pas bon pour cette chose. Si on s'entraîne pas spécifiquement pour le crossfit, on n'est pas bon pour le crossfit. Si on s'entraîne pas spécifiquement pour le développé couché, on n'est pas bon pour le développé couché. Et si on s'entraîne pas spécifiquement pour l'endurance, on n'est pas bon pour l'endurance. Donc ça sert à rien d'essayer de faire de la performance en endurance quand on fait de la musculation. Ça a pas de sens. Il faut simplement toute mesure garder. Par contre, si on n'est pas non plus dans une pratique délirante, on n'a pas de diminution extrême de ses capacités d'endurance quand on fait de la musculation, quoi. Comparativement aux sédentaires, c'est pareil.
Non, bah c'était, ça me semblait important de clarifier ce point, parce que si on l'entend tellement que.
Tu avais également un truc par rapport à ça. Je sais pas si c'était dans un podcast ou je ne sais quoi. Tu disais que justement les sportifs d'endurance, ils étaient beaucoup plus ridés. Mais c'est vrai que ceux qui font de la muscu par rapport à quelqu'un qui court, bah il est légèrement moins ridé. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué ça aussi. Mais...
Oui, bah c'est lié à plusieurs choses. Bah d'une part, en endurance, ils sont souvent très minces, donc de fait, la peau a tendance à tomber un peu. Donc c'est vrai que ça donne un aspect visuel plus ridé. Et il y a aussi le fait que la musculation, ça a tendance quand même à stimuler un peu l'hormone de croissance. On en a parlé d'ailleurs dans un podcast précédent. Et ça lutte aussi contre le vieillissement, justement, ce type de vieillissement. Donc c'est vrai que si on veut conserver aussi une belle peau, il vaut mieux faire un peu de musculation que faire beaucoup d'endurance. Ça, c'est évident.
D'accord.
Donc si vous voulez pas être ridé, ne courez pas.
Voilà, ouais, il n'y a pas de raison non plus de ne pas courir. Si on a envie de courir, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Mais je pense qu'il faut éviter de faire des entraînements vraiment intensifs. Et par contre, si on n'aime pas courir, il n'y a pas non plus spécialement de raison de se mettre à en faire. Il faut quand même garder en tête que la musculation, c'est un sport. On a énormément d'études qui montrent que faire de la musculation, c'est bon pour la santé. Ça diminue le risque de toutes les maladies chroniques. Il n'y a pas d'équivoque par rapport à ça. C'est pas quelque chose de dangereux, la musculation.
Non.
Non, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde.
Alors j'ai une question pour ajouter. Est-ce qu'on va devenir immortel grâce à la musculation ?
Oui.
Toi, tu peux pas, Rudy. Tu es déjà parmi les dieux. tu peux plus devenir immortel, c'est déjà fait.
Bon, bah victoire alors.
Est-ce qu'on peut dire susboule là ?
C'est parce que après, je vais lui demander de m'offrir son e-book gratuit.
Voilà.
Ah, c'est pour ça.
Bon, on continue les questions. Donc une question entraînement pour Rudy. Alors, pour bien progresser au coucher, comment faire pour bien renforcer les triceps?
Encore une bonne question. J'aime bien cette question. Donc si on, en fait, il faut déjà identifier son point faible au développé couché. Donc là, si on a les triceps en point faible, en général, c'est-à-dire qu'on va caler environ à la moitié du mouvement, voire un peu au-dessus, quand on arrive à l'échec. Donc à l'inverse, si je manque de pec, je suis moins fort des pectoraux, bah en fait, la barre, quand je vais coincer, je vais rester avec la barre collée sur les pecs et qu'elle va pas bouger. Donc là, un point faible triceps, donc je coince à la moitié du mouvement, c'est ce qui me limite pour que je mette plus lourd. Donc c'est un peu mon cas personnel. Donc je vais pouvoir répondre dans le cadre d'une progression des couchés, donc en force, donc pas forcément en volume. Donc il y a plusieurs techniques, donc il y a s'entraîner par exemple avec un slingshot, donc j'avais fait ça l'année dernière. Donc le slingshot, c'est un petit, on en a parlé je crois dans un précédent podcast, c'est un petit c'est un élastique qu'on met, comment expliquer ça? Comment expliquer le slingshot? C'est un élastique où on peut mettre ses deux bras dedans et quand on descend ça fait un peu ressort, voilà. Ouais. Donc en fait ça permet d'avoir la partie basse du mouvement beaucoup plus facile et donc de mettre beaucoup plus lourd à partir du moment en fait où on passe sur les triceps. Et quand on passe en fait sur les triceps, le slingshot n'intervient plus, pratiquement plus. Et en fait, on bénéficie de l'élan qu'il y a eu en bas, en fait. Et donc, ça permet de pas mal renforcer les triceps. Donc, on peut utiliser le slingshot. On peut utiliser une cale pour le développé couché. Donc, c'est ce que font souvent les compétiteurs de force athlétique pour s'entraîner. Comme ils mettent un maillot qui fait gagner 30, 40 ou 50 kilos, voire plus, pour certains. Donc, une petite cale de 5-10 cm. Avoir la hauteur de la cale suivant où vous coincez dans le mouvement. Donc ça peut être intéressant de mesurer là où on coince pour faire une cale exactement pile poil à l'endroit où on coince pour se renforcer à partir de là. On peut faire aussi, j'ai remarqué aussi sur pas mal d'athlètes que j'entraîne aussi, que les dips lestés marchaient pas mal pour renforcer les triceps pour le développer couché.
Ouais.
J'ai remarqué que ça donnait pas mal, donc plutôt les faire en prise serrée, vu que le but c'est de renforcer les triceps. On peut évidemment faire du couché serré. Personnellement, j'ai jamais trop ressenti un gain sur les triceps avec le couché serré.
Non, moi non plus.
Donc, ça m'a jamais aidé pour le développer couché, donc je récapitule. Donc, dips lestés, ça marche pas mal. Moi, c'est ce que je fais d'habitude, parce que j'aime bien faire des dips, et puis prise serrée, j'ai l'impression d'être fort. Le slingshot, intéressant, mais comme on met beaucoup plus lourd, à ne pas faire tout le temps non plus. C'est comme ça que je me suis fait mal à l'épaule l'année dernière. Ça a forcé un peu trop dessus. Malgré qu'on dit que ça protège, comme on met 30 ou 40 kilos de plus, ça protège pas tant que ça. Et sinon, faire du développé couché avec la cale. Donc après, comment introduire ça dans l'entraînement? Donc les dips, ça peut se faire en plus du couché dans le même entraînement ou lors de la séance des triceps. Le slingshot, ça peut se faire, imaginons qu'on fait le slingshot, donc à choisir la cale ou slingshot, voire on peut alterner un des deux chaque semaine, même si je préfère faire un seul plutôt qu'alterner les deux. Donc l'introduire dans une deuxième séance dans la semaine, sur le développé couché, vu que c'est le but, et donc faire une progression logique là-dessus, donc pour la force, donc en série de 6, 5, 4, 3 reps, quoi, en gros. Donc à voir après comment planifier votre cycle pour progresser là-dessus. Donc normalement, quand on progresse bien au développé couché avec la cale, au dips et puis avec le slingshot, et que c'est vraiment les triceps qui coincent pour le développé couché, on prend vraiment pas mal de force. Hein. C'est comme ça que l'année dernière, je me souviens, j'avais un gros coup de boost avant de me faire mal à l'épaule. Donc aussi attention, vu qu'on met beaucoup plus lourd et qu'on progresse plus vite, on peut vite se faire mal aussi. Donc voilà, ouais, c'est les trois solutions que je donnerais. Aussi, il y a un petit point aussi, c'est souvent, que moi j'ai remarqué aussi sur moi, c'est que quand je fais les triceps à fond, un exercice qui étire, donc comme le Magic Triceps ou les extensions nuque, et ben ça me laisse d'horribles courbatures. Donc je prends les triceps forcément, mais ça ne se répercute pas sur le coucher parce que mes triceps sont fatigués le reste de la semaine, et donc ça pénalise un peu mon développé couché. Donc si l'objectif est de développer couché, je conseillerais de pas trop faire d'exercices qui étirent les triceps à fond, donc comme les deux exercices que je viens de citer, pour pas avoir trop de courbatures d'étirement, et donc ne pas limiter votre force ensuite au développé couché.
Mmh. D'accord. Est-ce qu'on peut utiliser éventuellement les élastiques?
En fait, voilà, c'est une bonne question parce que j'aime pas du tout les élastiques. Alors pendant une période, j'ai testé les élastiques, justement dans le but de renforcer les triceps. Et c'est pourquoi après j'ai compris en fait que les mecs les utilisaient, donc tous les gros powerlifters en fait les utilisaient pour des séances de vitesse et pas pour des séances de force. Ouais. Pour une séance de vitesse, forcément ça aide, parce que la résistance est assez légère, on met 40, 50, 60% de son maxi, on fait des séries de 3 à peu près, et on essaye de pousser vite. Donc forcément quand on l'enlève, on est plus rapide. Et par contre quand on force, donc c'est ce que j'ai fait, j'avais fait un cycle de 5x5 à l'époque là-dessus, donc tu progresses avec ton élastique, mais le problème c'est que quand tu retires ton élastique, et ben ton mouvement a complètement changé.
Ah, tu décolles plus la barre.
Bah, en bas, c'est super lourd. En fait, ouais. Quand tu descends, en fait, d'un coup, tu sens qu'elle est lourde, quoi. Mais vraiment lourde, hein. Tu sens que, y a un fossé, quoi, d'un coup. Et quand tu repousses, tu sens qu'elle est lourde aussi. Donc, forcément, t'as gagné un peu en triceps, mais en fait, en bas, elle décolle plus. T'as changé de mouvement. Donc, je préconise plus les élastiques sur les séances de vitesse que sur les séances de force. On peut utiliser des élastiques, par exemple, sur le partiel, comme j'ai dit tout à l'heure, avec la cale. Ça peut être intéressant, ça. Ou même avec le slingshot, je sais pas, faudrait essayer voir ce que ça donne, mais avec la cale, c'est sûr que ça marche, vu que c'est partiel directement. Ça permet de rebondir aussi sur les chaînes pour le développer couché, donc ça peut être intéressant aussi. Faut voir comment ça change le mouvement. Je pense que ça, j'ai jamais vraiment essayé, donc je peux pas faire trop de retours là-dessus, mais je pense que ça change moins le mouvement que les élastiques. Donc le principe des chaînes, forcément, c'est quand je suis en bas, elles sont un peu plus reposées au sol, et plus je pousse, moins elles reposent au sol, donc plus il y a de poids. Donc je pense que ça peut être... Ça peut être une solution aussi à tester, s'il y en a qui veulent nous faire des retours dessus et qui ont testé pour renforcer leurs triceps, ils seront les bienvenus.
D'accord, donc on attend de leur retour. Donc ensuite, dernière question diététique pour Julien. Alors, l'intérêt des nouilles de konjac pendant la sèche, est-ce qu'il y en a un? Et le pissenlit en tisane, est-ce que c'est mieux ou identique que le thé vert pour l'excès de l'eau?
Les nouilles de Conjac, j'ai fait une vidéo sur mon site qui explique tout sur les nouilles de Conjac, donc je peux conseiller d'aller voir cette petite vidéo. L'avantage concrètement, c'est qu'il n'y a pas de calories dans les nouilles de Conjac, donc pendant la sèche, ça permet de couper la faim et de manger un peu consistant, et puis aussi d'avoir de faire tous les plats où on pourrait avoir un équivalent avec des spaghettis, on peut les remplacer par les nouilles de Conjac. Alors ça a pas, évidemment, ça a pas le même goût, puisque les nouilles de Conjac n'ont pas de goût, mais elles prennent le goût de ce qu'on met avec, donc c'est pas mal. En tout cas, ça permet de bien calmer la faim quand on est au régime, et ça c'est important, ceux qui ont fait un régime savent de quoi je parle.
Et comment ça se fait qu'il n'y a pas de calories, c'est juste de l'eau ou...
C'est de l'eau et des fibres, ouais. C'est une fibre tirée d'une plante, et au final, il n'y a pas de calories. Il y en a un petit peu en fait, mais il y en a très très peu. D'accord. Parce que les fibres, quand on mange des fibres, en fait, elles sont fermentées, puis elles produisent des acides gras à chaîne courte qui sont ensuite réabsorbés. Donc les fibres, en fait, apportent un petit peu de calories, mais très peu. Donc on considère que c'est négligeable.
D'accord.
Donc voilà. Et puis la question sur le thé vert ou le pissenlit, je trouve qu'elle est un peu curieuse dans le sens où c'est vraiment deux choses très distinctes. Le pissenlit, c'est un diurétique qui est très connu. Hein. Pissenlit, ça veut dire ce que ça veut dire. Je crois d'ailleurs que le nom de la plante vient de là. Hein.
Ah bon.
Ouais.
C'est pas donc, pour les enfants alors.
Non, c'est pas pour les enfants. Ça fait uriner, donc ça permet de faire partir de l'eau. C'est plus des choses qu'on utilise en phase finale d'un régime quand on veut faire des photos ou un passage sur scène. Sinon, ça n'a pas grand intérêt, franchement, je vois pas trop. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'élimination de l'eau, ça va être un peu plus efficace le pissenlit que le thé vert. Voilà ce qu'on peut dire.
Dans le cas d'une prise de muscle, il n'y a aucun intérêt à chercher à prendre un diurétique, de toute façon.
Ah non, là, vraiment, je vois que non. Non, non. D'accord. Pas d'intérêt.
Donc, il n'y a aucun intérêt.
Donc, oui. Quentin, t'avais des questions ou pas pour le podcast?
Ouais, moi, c'était pour réagir sur les études qu'a posté Julien sur Facebook, mais bon. Il y a un vaste intérêt pour ça. Savoir s'il faut manger plus ou moins le matin.
Tu peux nous rappeler l'étude?
Alors, attends, faut que je la reprenne. Mais c'était justement de pendant un régime à qualité et quantité équivalente, il y en avait un groupe qui mangeait plus le matin et un autre qui mangeait plus le soir. Et ils montraient justement que ceux qui mangeaient plus le soir, c'était ceux qui mangeaient plus le matin, il y a une diminution du gras, je crois. Je crois que c'était sur le foie, non?
C'était ça, ils mangeaient tous le même total calorique, mais ceux qui avaient moins mangé le soir avaient perdu plus de poids que ceux qui avaient moins mangé le matin.
Oui, c'était ça. Donc
je vois que je dis ça dans mon e-book qui va sortir lundi.
C'est des trucs qu'on a tous observés depuis au moins des siècles.
Hein. le sage Julien Vénesson.
Non, mais c'est de là que vient l'expression que j'ai oublié d'ailleurs, mais qui dans laquelle on dit prendre un petit déjeuner de roi, un déjeuner de je ne sais plus quoi et un dîner de mendiant. C'est de là que ça vient pour garder la forme. Bon, c'est assez logique, hein. La nuit on dort, donc on dépense pas beaucoup d'énergie comparativement à la journée. Donc c'est a priori plus logique de mettre ses apports énergétiques quand on en a besoin plutôt que de les mettre le soir où on en a pas besoin.
Et si on a fait un très très gros entraînement, est-ce qu'il y a un intérêt quand même à manger après?
Ah,
ou à manger moins?
Est-ce que tu as nutrition de la force, Quentin?
Bien sûr.
Dans nutrition de la force, tu as des exemples de personnes qui s'entraînent le soir, j'ai expliqué les maîtres, et qui prennent justement un bon dîner. Parce que exactement. Si on s'entraîne le soir et qu'on mange pas, c'est pas cohérent. Si on vient de s'entraîner, il y a une bonne partie de ce qu'on va manger qui est là pour aller renflouer des réserves qui ont été vidées par l'entraînement. Donc logiquement, effectivement, il faut manger le soir après l'entraînement, ça c'est sûr. Mais là, dans l'étude, c'est des sédentaires. Donc si on est sédentaire, il n'y a pas de raison de manger beaucoup le soir. Il vaut mieux manger mieux la journée.
Mmh. Donc c'est bien que les jours de repos, il vaudrait mieux un peu moins manger quand même, pour justement éviter l'accumulation de gras.
Normalement, si on prend un exemple de quelqu'un qui est en prise de muscle, comme on dit,
ouais.
Mathématiquement, mathématiquement, tu vas forcément moins manger le soir si tu ne t'entraînes pas, puisque déjà, toute ta nutrition, tout le chapitre qui est dédié à la nutrition autour de l'entraînement, tout ce que tu vas faire à ce moment-là, il sera pas là, puisque tu vas pas t'entraîner.
Ouais, justement, j'avais fait le calcul et j'ai vu que j'avais une différence de 500 à 600 calories, justement.
Et ben voilà.
Mais c'est... J'entraînais et jour, je m'entraînais pas.
Bah, c'est pas rien, hein. Donc, c'est normal. Normal, et il faut effectivement garder ce déficit calorique quand on s'entraîne pas. Mais j'en parle pas spécifiquement dans le livre parce qu'il y a une partie qui s'appelle la nutrition de l'entraînement. Donc, ça semble logique que ce qui s'appelle nutrition de l'entraînement ne se prend pas quand on ne s'entraîne pas.
D'accord.
Donc, forcément, il y a un petit déficit les jours où on s'entraîne pas.
D'accord. C'était juste pour faire un petit point là-dessus, parce que j'aimais bien les deux études. Voilà.
Oui, bah disons que je pense que ça va déplaire à certaines personnes qui conseillent de faire un seul repas par jour en particulier le soir.
Ah ouais.
En particulier le soir, bon. Disons que c'est en contradiction avec certains résultats.
Les gens aiment bien faire compliqué pour croire au miracle.
Ouais.
C'est une règle, Julien.
Alors que c'est tout simple.
Bah, oui, c'est bon, c'est... C'est des choses qui reviennent dans ce qu'on appelle le régime intermittent, qui est très à la mode, parce qu'effectivement, comme tu dis, ça donne un moyen de faire un peu pas comme tout le monde, alors qu'on a déjà des moyens très efficaces d'avoir des bons résultats. Donc le régime intermittent, j'ai déjà expliqué que j'en parlerai, j'ai prévu d'en parler un jour, je sais pas exactement quand, mais je le ferai de manière bien documentée pour que tout le monde puisse trouver la réponse à ces questions.
Vous en aviez déjà un peu parlé sur le premier podcast, je crois. Le premier ou le deuxième, mais il est vieux.
Ouais, on en a déjà parlé un sacré paquet de fois.
Hein. Ouais.
Pour dire qu'on pense qu'à, pour résumer, on pense que pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple et que ça marche beaucoup mieux.
Bah, c'est surtout qu'il y a beaucoup de gens chez qui le régime intermittent n'est pas du tout adapté. Et ça donnera soit pas de résultats supérieurs à l'alimentation classique comme celle qu'on conseille, soit ce sera plus à même de provoquer des problèmes du genre troubles digestifs et autres problèmes de santé. Mais par contre, pour une certaine catégorie de personnes, c'est bénéfique. Mais bon, je ne m'étendrai pas là-dessus, vu que ce sera, donc, comme je l'ai dit, le thème d'un...
Donc si vous voulez que Julien aborde ce thème au prochain podcast...
vous tapez un, sinon vous tapez deux.
Nous donnerons le numéro de téléphone payant de Julien juste après le podcast.
Bon. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions.
Voilà, on a répondu à toutes les questions, donc n'hésitez pas donc proposer votre participation. Je vous donnerai donc une date pour venir participer. C'est sympa, on mange pas.
Hein. Exactement.
C'est cool. Et si vous avez des questions, bah donc c'est sur la rubrique entraînement sur le forum. Donc n'hésitez pas. On se fait toujours un plaisir d'y répondre. Et puis déjà la semaine prochaine, vous allez être gâtés avec Julien. Il est prêt pour l'IF. Il est à fond dessus. Donc voilà, bon bah merci Quentin d'être venu.
Encore une fois.
Bon bah Julien, je te remercie pas forcément.
Pourquoi tu me remercies pas?
Je veux pas le dire, mais Julien a avancé le podcast. Il nous a prévenu une heure avant.
J'ai dû tracer ma. Ça m'a fait un bon plaisir.
Donc,
heureusement que je suis fonctionnaire.
Je remercie à Akuma. Ah tiens, j'ai une question à con. J'ai un élève qui m'a demandé pourquoi tu as appelé ton chat Akuma, parce que ça veut dire démon.
Ouais, ça veut dire démon, absolument, ça veut dire démon en japonais. Mais c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, c'était son ancienne propriétaire qui l'a appelé comme ça. Et ça lui va très bien, alors j'ai gardé ce nom. Parce que Akuma n'a rien d'un démon, donc c'est un nom qui est tout à fait humoristique.
Ouais, donc sans commentaire.
Sans commentaire, ouais, enfin... Pas plus de commentaires que ce que je viens de dire.
Bon, bah, ça roule. Bon, bah, sur ce, bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.
À bientôt.
Salut.